Où je suis responsable d'un pan de collection, d'un pôle qui s'appelle Croyance et Religion. Par ailleurs, avant d'être conservateur du patrimoine, j'ai été professeur d'histoire géographique dans l'enseignement secondaire pendant 6 ans, et je pense que ça a dû aussi jouer sur mon intérêt et mon goût pour les questions de médiation et de transmission de la connaissance auprès de publics divers, variés, parfois hétérogène, et j'ai donc à ce titre notamment assuré la coordination de tous les outils de médiation pour la nouvelle exposition semi-permanente du MUCEM intitulée Méditerranée, invention et représentation, et donc je vais vous parler de cette exposition et justement en particulier des dispositifs de médiation qui ont été mis en œuvre au sein de celle-ci, en particulier les dispositifs écrits, toujours dans cette optique d'étendre le rôle social du musée. Alors, je vous l'ai dit, je suis conservateur MUCEM, qui est un musée à l'identité complexe. Donc, si on développe cet acronyme, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui a ouvert au public en 2013, qui s'est défini à ce moment-là comme un musée de société. On reste dans cette de rôle social du musée. C'est un musée qui a hérité de collections de musées d'ethnographie de la France et de l'Europe, collections qu'on a un temps désignées comme collections de folklore ou collections d'art et traditions populaires. D'ailleurs, le MUCEM est né de la transformation administrative de l'ancien musée national des arts et traditions populaires. Donc, ces termes qui reviennent, musée de société, musée du populaire, je ne vais pas me risquer à définir ces termes, mais ils donnent une certaine tonalité. D'ailleurs, le créateur du musée national des arts et traditions populaires, Jean-Jean Rivière, on l'a rappelé ce matin dans l'introduction, avait été l'un des concepteurs des écomusées, puisqu'il était investi dans cette conception. Et donc, le fait d'étendre le rôle social du musée, c'est un objectif qui est en quelque sorte inscrit dans l'ADN du MUCEM, qui est par ailleurs un musée national implanté, installé à Marseille, grande ville considérée comme populaire par excellence en France. Et donc il est par ailleurs très largement attendu, notamment de la part du public, que le MUCEM traite le sujet de la Méditerranée dans ses espaces d'exposition, de manière tout à fait logique. Le nom du musée comprend le toponyme de la Méditerranée. Le musée lui-même est installé à quelques mètres de la mer en question. Et donc il y a une véritable attente depuis l'ouverture sur le fait que le sujet soit traité, et en particulier dans ces expositions permanentes ou semi-permanentes. On parle d'expositions semi-permanentes parce qu'elles sont renouvelées à des intervalles de 3 à 5 ans. Et ça, c'est même un symptôme en quelque sorte de l'histoire de ce musée, c'est-à-dire qu'il a hérité de musées qui avaient fermé, disparu, qui avaient été transformés en raison de critiques sur le modèle d'exposition, et notamment sur le fait que la manière dont il présentait la société restait figée et ne se renouvelait pas suffisamment régulièrement, aussi vite que la connaissance ou la société elle-même évoluait. Et donc c'est aussi pour répondre à ces critiques que le modèle de l'exposition semi-permanente a été mis en œuvre au MUCEM. Alors le fait d'y parler de la Méditerranée, c'est, je vous disais, une évidence par certains aspects, mais pas partout. Si on reprend cette histoire justement à la fois du musée et de ses collections, qui remontent au musée d'ethnographie du Trocadéro, au musée national des arts et traditions populaires, au musée de l'Homme, eh bien, on est face à des collections historiques qui sont en grande partie centrées sur les sociétés pré-industrielles, pour le dire très vite, françaises et européennes, donc un fonds de collection historique qui ne correspond pas, en tout cas pas de manière stricte, avec un projet méditerranéen, puisque les collections nationales publiques d'ethnographie du Levant et d'Afrique du Nord ont été, elles, affectées au musée du Quai Branly. On est face à un projet par rapport auquel la collection ne coïncide pas, en tout cas de manière stricte. Ça constitue donc une première difficulté, et la deuxième, c'est une difficulté plus générale, qui est celle de circonscrire la Méditerranée pour en rendre compte sous la forme d'une exposition avec des objets dans un espace de 750-800 mètres carrés. Et en fait, les expositions semi-permanentes précédentes qui traitaient de la Méditerranée, eh bien, n'avaient pas forcément essayé de se confronter à la fois à ces deux défis, c'est-à-dire qu'elles présentaient en fait très peu de collections. Aussi parce que, justement, en plus de cette inadéquation relative, il y a aussi quelque chose d'un héritage qui était compliqué à assumer. Je vous le disais, les musées qui avaient précédé le muséum à fermer, il y avait une forme de dérision à l'intérieur du musée également, pour une partie de ses collections, pour les charrues, pour les armoires normandes, et donc une volonté qui existait de s'en distancer lors de la création du musée, et les premiers accrochages permanents reflétaient aussi cette situation. Et donc avec le projet de refaire cet accrochage semi-permanent avec celui dont je parle, la proposition était de repartir de la collection du musée et d'interroger finalement ce que l'on pouvait voir, ce qui était dit du monde méditerranéen par les collections du MUCEM et par la manière dont elles avaient été constituées. Donc on a identifié deux axes majeurs autour de ce point, de typologie, de type de collection, celle qui relevait d'un art populaire justement, se faisant l'écho lointain de l'art de l'Antiquité gréco-romaine, de sa redécouverte, de son réinvestissement revendiqué par les nations et les artistes européens à partir de la Renaissance, et d'autre part, celle qui témoignait du regard ethnographique porté sur les populations rurales du bassin méditerranéen, notamment dans un contexte colonial, mais pas exclusivement, puisque toute la partie sud de l'Europe est aussi concernée par ce regard. Alors, la présence de ces deux catégories d'objets dans les collections du MUCEM et de manière plus large dans les collections publiques françaises, elle est liée à l'existence de deux catégories de musées, les musées de beaux-arts et les musées d'ethnographie. Et l'objectif de ce projet d'exposition était de montrer de manière décloisonnée quelle Méditerranée, quelles images et quels imaginaires les musées avaient contribué à construire à travers les collections qu'ils ont constituées, un héritage qui, c'est aussi l'objectif de cette exposition permanente, doit aujourd'hui être questionné, tout comme doivent l'être les stéréotypes et les fantasmes qu'ils véhiculent parfois. Un autre point qui a été important dans notre réflexion, c'était le fait que partait d'une réflexion sur les musées, sur leur histoire, et le musée moderne est une invention européenne. C'est donc aussi du regard de l'Europe sur la Méditerranée, les deux toponymes qui figurent dans le nom du MUCEM, qu'il est question dans cette exposition. Alors, cette perspective recentrée, elle est, je le disais, intrinsèque à l'histoire des musées et de leurs collections, mais elle est envisagée, bien sûr, d'une manière critique, insistant sur le fait que la construction des musées européens, de l'histoire de l'art, de l'ethnographie, eh bien, si elle répond à des objectifs scientifiques, à des enjeux de diffusion des savoirs, eh bien, elle s'inscrit aussi dans le contexte politique de l'édification des États-nations et de la colonisation. Et justement, les États-nations européens se sont construits sur la revendication de l'héritage de la civilisation classique gréco-romaine utilisée pour justifier leurs entreprises coloniales, en particulier en Méditerranée, autour du Mare Nostrum de l'Empire romain. Une partie de l'imagerie coloniale va venir mettre en scène les nations européennes représentées sous les traits d'allégories antiquisantes, apportant la civilisation à des populations dont l'altérité orientalisante va être au contraire soulignée. Donc il s'agit aussi, par cette approche décloisonnée, de montrer en quoi ces deux éléments, ces deux types de collections habituellement présentées de manière distinctes, séparées, peuvent présenter des liens. Alors la multiplication des points de vue, j'en ai déjà un petit peu parlé à travers le rôle des artistes, et notamment des artistes contemporains, qui passe aussi donc par une volonté de partager le discours sur les objets exposés. C'était aussi ce qui se passait dans l'espace conclusif de l'exposition, mais on a souhaité également le mettre en œuvre dans la médiation écrite du musée, en partant de l'idée que les collections présentées dans l'exposition sont majoritairement issues du MUCEM et d'autres musées français, et donc elles présentent, comme je le disais, un point de vue sur la Méditerranée construit depuis l'Europe, en particulier depuis la France. Et donc l'objectif, c'est d'apporter une perspective différente sur cette histoire et ses héritages, en faisant intervenir des spécialistes d'autres pays méditerranéens qui ont été invités à partager leur regard sur un certain nombre de ces objets sous la forme de cartels spécifiques. On va signaler dans le parcours par un œil que vous voyez en haut à droite et par une couleur distincte. Et donc, on a sollicité, je vais les citer. citer rapidement, Yuna Behgadi-Rebaï, la présidente du conseil scientifique. Alors, le fait qu'il s'agisse, et je vais conclure là-dessus, d'un accrochage permanent, donc qui va durer entre 3 et 5 ans, c'est aussi ce qui permet cette multiplication des points de vue et des niveaux de lecture, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui prend du temps à mettre en œuvre, on ne peut pas nécessairement faire pour des expositions temporaires, et ça se justifie aussi, en tout cas ça se justifie à notre sens, parce que ce sont des dispositifs qui sont aussi destinés à ceux des visiteurs qui vont revenir, puisque on sait par nos études de public qu'on a des visiteurs de Marseille et des environs qui reviennent, parce qu'on a une programmation d'exposition temporaire qui est très régulièrement renouvelée, donc les gens reviennent, et très souvent ils reviennent aussi dans les expositions permanente. Donc l'idée était aussi de faire en sorte qu'ils aient des contenus un petit peu riches, pas forcément à découvrir de manière intégrale lors d'une visite, mais de pouvoir revenir et découvrir de nouvelles choses à chaque fois. On a considéré que les cartels faciles à lire pouvaient aussi en partie s'adresser aux enfants. On n'a pas conçu de parcours enfant aussi parce qu'on considérait que justement, on était arrivé à un niveau de, enfin à une quantité, disons, de niveau de lecture qui aurait été un petit peu difficile aussi en termes de faire le cartel parce qu'on se trouve avec des niveaux de médiation écrite qui sont trop nombreux et que ça ne semblait pas forcément être la priorité de s'adresser à ce type de public au vu du sujet de l'exposition. Que d'autres s'y prêtaient davantage et donc on a privilégier d'autres niveaux de lecture et d'autres destinataires plutôt que de faire un parcours enfant de l'exposition.